Pain d'espérance. Rencontre avec ceux qui se lèvent pour suivre l'appel du pape en cette année jubilaire.
Bienvenue à vous, chers amis, auditrices, auditeurs, dans cette chronique sur l'année du jubilé, l'espérance et les signes d'espérance aujourd'hui. Nous recevons pour vous Madame Garbi Marie-Thérèse, épouse Palu, qui a bien accepté de partager son expérience avec nous pour cette année jubilée. Marie-Thérèse, bonjour.
Bonjour, bonjour Père.
Voilà, Marie-Thérèse, présentez-vous plus amplement à nos auditeurs et auditrices.
Donc, je m'appelle Marie-Thérèse Palu de mon nom d'usage. Je suis mariée depuis 40 ans maintenant. J'ai 4 enfants, nous avons 4 enfants, 2 petits-enfants et je suis à la retraite depuis 8 ans. Voilà, j'ai été professeure de français langue étrangère, qu'on appelle le FLE, dans une école universitaire qui était intégrée à la Sorbonne, mais qui restait privée, une école privée. Voilà, où j'ai travaillé 40 ans et j'ai eu de multiples rencontres très intéressantes donc avec des étudiants du monde entier.
Alors, nous sommes heureux de vous retrouver, Madame Marie-Thérèse Palu, et pour parler de l'espérance. Nous sommes dans cette année jubilaire et le pape François nous invite à méditer sur le thème pèlerin, l'espérance. Qu'est-ce que ce thème évoque pour vous?
Alors, déjà, pèlerin, nous sommes en marche, ça c'est sûr. Donc, ça montre un certain dynamisme. Et puis, l'espérance, ce n'est pas, je veux dire, espérer au sens brut, c'est-à-dire ce n'est pas nourrir de l'espoir, parce que l'espoir, c'est nous qui nous projetons. Or, espérer, c'est attendre, et c'est attendre dans la confiance. Mais c'est une confiance active, on ne reste pas passif, ni dans la prière d'abandon, ni dans l'accomplissement des devoirs. Et bien sûr, c'est aussi exercer beaucoup de vertus, comme la patience, la persévérance, la longanimité, qui sont soutenus par la vertu de force. Après, pour moi, qu'est-ce que ça pourrait être dans ma journée? Déjà, au début de la journée, c'est offrir sa journée sous le regard de Dieu, de Notre-Dame. Moi, j'aime bien évoquer les tâches qui m'attendent dans la journée et les personnes que je vais rencontrer. Ça permet justement, surtout que toutes les tâches ne sont pas absolument passionnantes. Et puis, il y a des personnes qui sont moins faciles d'abord. Donc, je les confie. Et ça me permet d'être en confiance pour aborder et les tâches et les personnes.
Alors, Madame Marie-Thérèse, vous avez évoqué cette définition de l'espérance. Est-ce que vous pouvez nous partager une expérience vécue où vous avez, au-delà des difficultés, vécu cette expérience que vous venez de décrire?
Alors, ça, oui, il y en a beaucoup. Après, il faut faire le tri pour être un peu synthétique. Il y a toujours les tensions en famille, c'est vrai, couple, belle famille, au travail, des personnes qui ne sont pas de notre avis pour tout. Il y a les enfants au moment de l'adolescence qui sont dans la rébellion. Donc, c'est tout confié. Déjà, tout confié. Les mauvais moments ne durent pas si on les offre et si on les confie. Et puis, quand on est un peu saturé, qu'à un moment, on en a un peu ras-le-bol, eh bien, c'est, comme disait Saint José Maria, on va au tabernacle et on dépose tout aux pieds du Seigneur. Et lui, il saura toujours qu'en faire. Et le fait d'avoir déchargé, eh bien, on est déjà rempli parce qu'on s'est vidé et on lui a fait de la place. Donc, au bout d'un moment, ma foi, tout se dénoue, tout s'apaise et il faut toujours voir finalement le positif dans les situations et les personnes et ne jamais s'arrêter à ce qui nous rebute. Et puis, peut-être une expérience qui m'a énormément touchée, c'était dans l'accompagnement au catéchuménat en région parisienne. C'était une jeune femme qui demandait le baptême. Elle nous a raconté, elle venait du Rwanda, donc c'était quand même moins de 10 ans après les massacres. Et elle était dans l'abandon et le pardon, parce qu'elle disait, si je reste dans la haine et la souffrance, je me détruis moi-même. Donc il n'y a qu'en allant vers le Seigneur, en me dépouillant de tout ce qui me pèse et me détruit, que je vais pouvoir me reconstruire. Et ça m'a énormément touchée. Alors, mon expérience personnelle, c'est qu'entre ma profession de foi et mes quelques 24-25 ans, j'avais cessé de pratiquer. Et puis, j'ai rencontré une étudiante qui m'a fait connaître Saint José Maria, donc le fondateur de l'Opus Dei. Et moi, qui me posais beaucoup de questions sur un engagement au Carmel, parce que j'étais travaillée par la foi, le Seigneur ne m'avait pas abandonnée, loin de là. C'est moi qui avais un peu lâché sa main. Et puis, voilà, je suis revenue écouter une méditation devant le tabernacle. Et là, je me suis aperçue que le Seigneur m'attendait. Et dans ma vie quotidienne, que je n'étais pas obligée d'avoir une vocation particulière pour moi, du moins au célibat ou dans une vocation religieuse, mais que là où j'étais, jeune prof, ma foi, je pouvais trouver ma place dans l'Église. Et là, j'ai vraiment sauté à pieds joints parce que je me suis sentie accueillie dans l'Église par le vecteur de l'Opus Dei.
Est-ce que vous voyez des signes d'espérance autour de vous?
Alors, il y a un proverbe que j'aime beaucoup, c'est « un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse ». Et si l'on regarde toujours ce qui ne va pas, ce qui nous déçoit, même ce qui nous blesse, et les médias s'en font les échos, alors on se lamente, rien ne va plus. Et le pire, c'est de penser qu'avant, c'était mieux. Non, avant, ce n'était pas mieux. On a juste oublié ce qui était mauvais pour ne garder que les bons souvenirs. Et en fait, c'est ce qu'il faut faire dans sa propre vie. Voir la générosité des associations pour les plus faibles, tous les artisans de paix à travers le monde, ceux qui soignent au risque de leur vie, juste savoir regarder, écouter et contempler dans son cœur tout ce qui relève l'humanité. Et ça, ça doit nous réjouir le cœur et nous inviter, nous aussi, à plus de services. Ce sont des petits signes, mais ils sont petits parce qu'ils sont noyés dans beaucoup de catastrophes. Et je pense que si on savait les mettre sur le lampadaire, ces petites lumières, je pense que ça éclairerait beaucoup plus notre propre vie, mais surtout le monde entier. Et donc, ces petits événements, en fait, sont de grands événements. Mais on ne les voit pas, parce qu'ils ne sont pas mis en avant.
Et dans le monde d'aujourd'hui, Marie-Thérèse, où il y a des guerres, où il y a des conflits, et où il y a des situations au niveau social, et où tout le monde est dans le sens de la désespérance. Et est-ce qu'on peut retrouver ces signes-là facilement aujourd'hui?
Alors facilement, je ne sais pas, mais une chose est certaine, c'est qu'on ne regarde que les actions. C'est-à-dire l'activisme, alors la diplomatie, la guerre, bien entendu, ça, on le voit autour de soi. Mais ce qu'on oublie, c'est que finalement, ce qui va porter le plus le monde, c'est, oui, la diplomatie, mais si la diplomatie n'est pas portée par la prière, je doute qu'elle aboutisse beaucoup. C'est-à-dire qu'on oublie que la racine de toute action doit être d'abord orientée vers Dieu. D'abord, ça permet d'avoir des actions ajustées à sa volonté, et peut-être plus de succès et de préparer le cœur de l'autre personne à accueillir les propositions de paix. Donc c'est vrai que la guerre, ça peut désespérer, mais il y a beaucoup de travailleurs et d'artisans de paix, mais on ne les montre pas comme des personnes priantes. Et ça, c'est très dommage.
Quelle est la responsabilité du chrétien aujourd'hui pour être porteur d'espérance?
Alors, notre responsabilité, c'est déjà de soigner notre vie de piété et puis, bien sûr, de s'engager soit dans la formation. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont s'engager concrètement pour aider les plus pauvres, les malades, assister les personnes en désespérance. Mais après, c'est chacun qui aura son propre charisme. Et ça, je pense qu'il faut être à l'écoute de son propre charisme parce que c'est là que le Seigneur nous attend. Je veux dire, si on est doué pour transmettre la parole, pour transmettre l'éducation aux jeunes enfants, comment aborder un adolescent, si c'est là notre charisme, alors allons-y. Mais si par contre notre charisme, c'est de soigner des plaies ouvertes, c'est d'accueillir le cœur de ceux qui sont désespérés, ces personnes-là doivent écouter le charisme par lequel le Seigneur les appelle.
Dites-moi, et quel conseil donnez-vous à ceux qui se sentent découragés pour retrouver ou nourrir l'espérance?
Alors, déjà, toute personne a besoin de témoignages concrets. Si on ne témoigne pas, que ce soit spirituellement ou concrètement, les gens déjà ne savent pas qu'il y a des personnes qui peuvent les aider. Donc, c'est déjà être très, personnellement porteur de parole, de façon à ce que les personnes se disent « c'est possible puisque telle personne l'a fait ». Donc, c'est vrai, on peut lire la vie des saints, mais très souvent, on se dit « oh là là, c'est à distance, c'était il y a 50 ans, c'était il y a 200 ans, 300, 1000 ans ». Et on se sent moins. Mais quand on regarde vraiment tout ce qui se fait, tout est signe d'espérance si on se dit « et si moi je me bougeais comme cette personne qui est partie de rien et qui a fait des merveilles simplement en bravant l'opinion publique, en bravant le mépris, parce qu'il y a beaucoup de choses très belles et très bonnes qui se font pour respecter la vie, dès son commencement jusqu'à la fin. Mais si on n'a pas des arguments scientifiques et qu'on avance seulement, si j'ose dire, des arguments de foi et de respect de la personne, ces personnes-là sont vilipendées. Donc, ça veut dire qu'il faut se dire, ils ont eu l'audace, ils ont eu le courage avec la grâce de Dieu, et moi, qu'est-ce que je fais? Donc, je pense qu'il faut toujours regarder ce qui a été le mal qui a été combattu et les belles choses qui se sont mises en place parce qu'on n'a pas voulu baisser les bras et qu'on se laisse accompagner par le Seigneur.
Qu'attendez-vous de cette année de jubilé sur l'espérance?
Ça, c'est toujours très difficile parce que attendre quelque chose, bon, c'est vrai qu'on a tendance à se projeter, à ce serait bien si on faisait ci, si on faisait ça. Mais après, on s'aperçoit que par le hasard des rencontres, le Seigneur nous attend ailleurs. Donc, très souvent, on se dit « Ah, ce serait bien de faire ça » ou bien les enfants disaient avant « Ah, il faudrait réussir tel examen, tel entretien et tout » et puis ça ne se faisait pas. Et moi, je leur disais « Mais l'espérance, c'est de se dire que si ça ne se fait pas, c'est que ça ne devait pas se faire, que ton chemin est ailleurs et que le meilleur est à venir. » Donc, c'est cette confiance active, toujours jamais, enfin, ce qu'on appelle l'abandon, mais l'abandon n'est valable qu'auprès du Seigneur. Sinon, c'est baisser les bras, ne plus rien faire. Mais moi, ce que je dirais, ce serait vraiment continuer de toujours regarder, déjà fermer un peu la télé à certains moments, des infos, je pense que ça fait du bien, cultiver le silence et le dialogue avec le Seigneur. Et c'est là qu'on voit que tout s'apaise et que les idées que l'on a envie de mettre en place, les projets, accompagner telle ou telle personne que l'on n'avait pas remarqué ou une autre qui nous est donnée par le hasard d'une rencontre, voilà, se dire, cette personne est là, elle ne me plaît pas trop prime abord, mais si elle est là, c'est que le Seigneur l'a mis sur mon chemin pour quelque chose. Donc, être à l'écoute, ouais, je ne peux pas dire autre chose, et laisser venir ce que le Seigneur nous offre.
Est-ce que c'est ce mot qui peut être le dernier pour vous, mais vous avez quelque chose à dire sur l'espérance? Si vous avez à résumer l'espérance aujourd'hui, que diriez-vous?
Alors, si je fais le plus court, ce serait, je crois que c'est Sainte Thérèse qui le disait, il n'y a qu'un seul jour pour aimer et servir, c'est aujourd'hui.
C'était Pèlerin d'Espérance, une coproduction des radios chrétiennes associées.